Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Marie-Laure Sunshine.
Bonjour Ali.
Chef des actualités de Femmes Actuelles. On vous retrouve en fin d'émission dans votre rubrique Les choses de la vie. Le sujet du jour crée du débat.
Absolument, l'Italie planche sur une loi autorisant les femmes qui souffrent de règles douloureuses à disposer de 3 jours de congé. Alors en France, on s'interroge, est-ce un progrès ou une mesure sexiste?
A tout à l'heure, Marie-Laure Sunshine. 3, 4, 5, 6 enfants et plus à élever, seuls ou à deux, bienvenue dans la famille nombreuse traditionnelle ou recomposée. Zoom ce matin sur les familles taille XXL. Quelles sont les motivations des parents pour fonder une famille nombreuse? Comment fonctionne-t-elle? Quel est leur mode d'emploi? Leur manière de s'organiser? Comment trouver sa place dans une grande fratrie? Comment ne pas se sentir lésé? Comment nouer des relations singulières avec chacun de ses enfants? Comment bien vivre dans une famille nombreuse sans éprouver un sentiment de promiscuité? Voici quelques-unes des questions que nous poserons ce matin à nos invités. Et vous, racontez-nous votre vie dans une famille nombreuse, côté parents ou côté enfants. Grand bien vous fasse à radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Ulysse et Josué attendent vos coups de fil au 01 45 24 7000. Et puis dans quelques minutes, vous retrouverez Les choses vues de Christophe André, notre psy maison, très inspiré par notre sujet du jour.
France Inter, grand bien vous fasse. Ali Rébéi.
12 enfants, c'est ridicule, je sais, mais une simple petite famille, il n'en était pas question. D'abord parce que Tom gardait un merveilleux souvenir de son enfance avec ses 7 frères et sœurs, et que moi, j'avais toujours rêvé d'avoir plein de frères et sœurs. Nous nous sommes connus à l'université de l'Illinois, Tom et moi. Il voulait 8 enfants, et moi aussi. Après la naissance de Charlie et Lorraine, on a vite compris que l'idée de vivre en ville, d'avoir 8 enfants et 2 carrières, c'était une erreur. Et le rêve des 8 enfants l'a emporté sur celui des 2 grandes carrières. Tom et moi n'avons pas chômé en arrivant à Medlin. On a eu tour à tour Henry, Sarah, Jake et Mark, un tous les ans. Puis, visant le 8e et dernier, on a eu nos premières jumelles, Jessica et Kim. Nous en étions à 9. Puis, on est allé à une fête en l'honneur de Sheikh Maguire, nommé directeur sportif de l'université de nos études. Et bon, là, on a bu quelques bières. Et quelques mois plus tard, Mike est né. Après ça, Tom a eu une vasectomie. Seulement, il a oublié que le médecin lui avait dit que l'intervention ne prendrait effet que dans plusieurs semaines. En 98, Nigel et Kyle sont venus grossir nos rangs. 12. Mais Tom et moi étions déjà devenus experts en gestion du chaos.
Un extrait de 13 à la douzaine de Shaun Levy en 2003. Comment bien vivre dans une famille nombreuse? C'est notre question du jour en compagnie de 3 invités. Bonjour Serge Fez.
Bonjour.
Psychiatre, psychanalyste, vous êtes responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et vous avez publié chez Kéro, La fabrique de la famille. Bonjour Sébastien Dupont.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, thérapeute, chercheur associé à l'Université de Strasbourg et vous publiez aux éditions Sciences Humaines « La famille aujourd'hui, entre tradition et modernité ». Bonjour Shadia Shaibi-Loueslati.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Vous êtes l'auteur d'une BD assez formidable, « Famille nombreuse », publiée chez Marabulle. Sébastien Dupont, à quoi ressemble la famille nombreuse aujourd'hui? Il y a de moins en moins de familles nombreuses en France, me semble-t-il.
Oui, on a de moins en moins, alors qu'elle représentait un tiers des familles il y a quelques décennies, elle ne représente plus qu'une famille sur 5 aujourd'hui, et elle présente souvent certaines caractéristiques sociologiques. Elle est plus fréquente dans les milieux défavorisés. En fait, ça fait une sorte de courbe en J majuscule inversée, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans les milieux modestes, peu dans les classes moyennes, et il y a une remontée dans les milieux très favorisés, peut-être parfois pour des questions traditionnelles, religieuses, mais aussi tout simplement pour des questions de moyens, parce que les parents favorisés peuvent réaliser la famille nombreuse qu'ils souhaitaient avoir.
Alors c'est quoi d'ailleurs une famille nombreuse selon les critères des politiques familiales? C'est plus de 3 enfants, c'est ça?
C'est 3 enfants et plus. Alors, c'est le critère aujourd'hui des familles nombreuses.
Et on compte aujourd'hui en France 1 700 000 foyers de 3 enfants et plus. Le taux de fécondité moyen d'une femme aujourd'hui, c'est 2 enfants, c'est ça?
C'est 2 enfants, c'est ça. Mais si on considère que toutes les femmes n'ont pas d'enfants, voilà, ça crée des typologies de familles différentes.
Shadia Shaibi Louislati, votre roman graphique Famille nombreuse raconte la vie mode d'emploi d'une famille nombreuse. Alors c'est très drôle, hein, moi ça me fait penser dans le trait notamment à Marjane Satrapi. Vous êtes franco-tunisienne et vous êtes la sixième d'une fratrie de 12 enfants. Il y a 21 ans d'écart, c'est ça, entre le premier et le dernier ?
C'est ça, 21 ans d'écart.
Alors c'est le vrai cliché de la famille nombreuse d'origine immigrée, hein ?
Oui, qu'est-ce qu'on entend par cliché?
Quand vous annonciez que vous étiez 12 enfants à la maison, vous subissiez le feu roulant des questions.
Oui, parce que ça interpelle toujours les gens, qu'on dise, on peut dire, voilà, on est 3-4, ça peut passer, mais quand on dit qu'on est 12 enfants, ça interpelle tout le temps les gens. Hein,
Alors, dans les questions, dans le feu roulant des questions, vous arrivez à tous manger ou vous faites des roulements? Vous touchez combien d'allocs?
Alors, je tiens à préciser que toutes les questions que j'ai mises dans le livre, c'est des questions qu'on nous a posées à un moment donné dans notre vie.
Ouais.
Et qui m'ont paru assez aberrantes. Donc, on avait le top 10 avec mes frères et sœurs des questions qu'on nous posait.
Par exemple
Moi, je sais que j'avais une de mes sœurs qui m'a, pas forcément dans la question, mais qui me racontait qu'une fois être allée au collège et puis avoir vu deux amis à elle qui jouaient au Juste Prix. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu animé par Patrick Roy. Et en fait, ses camarades de classe s'amusaient à déterminer le montant de l'allocation de ma mère en disant plus, moins, et puis celui qui trouverait le chiffre exact de l'allocation familiale qu'elle touchait.
Alors, votre père quitte la Tunisie en 1966 pour venir travailler en France.
C'est ça.
Votre mère le rejoint en 1968 à accompagnée déjà de 3 enfants?
Oui, et enceinte du 4e.
Alors vous venez au monde en France dans un studio un peu étriqué, hein, pour famille qui s'agrandit à vue d'œil.
C'est ça, on était 5 enfants et j'étais la 6e arrivée dans ce studio, donc il fallait absolument que mes parents trouvent plus grand parce que c'était pas possible, quoi. Une pièce pour 6 personnes, c'est la mort du couple. Apparemment pas, parce qu'ils ont fait 2 enfants. Après, donc,
et votre mère, pour obtenir un logement plus grand, fait même un sit-in alors qu'elle est enceinte. Elle fait un sit-in devant...
Devant le PHLM de Drancy, parce qu'elle demande un logement et à chaque fois on lui dit c'est pas cette année, c'est pas encore, etc. Donc elle en a marre. Et sur le point d'accoucher, elle a bien choisi son moment, c'était sur le point d'accoucher. Elle s'est installée sur les marches en leur disant « j'accouche ici ».
Alors c'est à l'école que vous sentez pour la première fois un jugement social sur votre famille nombreuse?
Oui.
Vous sentez le regard pesant à la fois des profs et des parents d'élèves?
Oui, parce qu'en fait quand on vit chez soi, avant l'école, on se rend pas forcément compte qu'on est une famille un peu hors norme. C'est quand on va à l'école et qu'on discute avec les camarades et qu'on commence à dire « nous on est 12 » ou on est notamment quand je suis arrivée en 6e, on était peut-être 7-8 ça interpelle les gens et là on entend des remarques qui, sur le coup, on n'y réfléchit pas trop, mais après, effectivement, on se dit c'était pas si anodin que ça, quoi. Et c'est des remarques souvent blessantes. Souvent blessantes.
Humiliantes.
Puis il faut faire avec, quoi. Il faut faire avec, garder le sourire et...
Le CEPA a été une épreuve, ça a été dur d'être accepté par notamment les petites camarades de classe.
Oui, parce que ma mère, elle me coupait les cheveux. C'était pas une coiffeuse, c'était une maman, mais pas une coiffeuse, et du coup je me retrouvais avec des coupes mais improbables, ce qui a accentué un peu
une distance sociale.
Voilà, exactement, avec les autres enfants, quoi. Mais j'ai toujours été quelqu'un de déterminé, donc je me suis pas arrêtée à ça.
Serge Hefez, le plus dur pour les familles nombreuses, c'est le regard des autres. Et comment expliquer ce regard social souvent négatif?
Mais parce qu'aujourd'hui,
surtout quand il s'agit de familles d'origine immigrée.
Oui, parce qu'aujourd'hui, on se représente la famille idéale avec deux parents, deux enfants, si possible blonds, et si possible un garçon et une fille, et si possible dans une 4x4 avec un labrador. Donc il y a quand même cette vision très très idéalisée de la famille individualisée, la famille qui va permettre à chacun de ses enfants de s'épanouir en ayant une éducation très ciblée pour l'un et pour l'autre, en permettant leur épanouissement le plus près possible de ce qu'ils sont. Et donc c'est vrai que les familles nombreuses, elles interpellent ce bel ordonnancement de cette famille idéale aujourd'hui. Et en plus, c'est vrai que la famille nombreuse, on se la représente un peu, comme c'était dit tout à l'heure, entre deux pôles. Soit une famille très catho-intégriste, très traditionnaliste, qui fait comme ça des tas d'enfants, soit effectivement une famille immigrée, casse-sociale,
assoiffée d'allocations familiales.
Voilà, qui va profiter des allocs et qui donc va sucer le sang des Français. C'est des représentations qui sont très très ancrées et qui font qu'effectivement, on la regarde un peu bizarrement, cette famille nombreuse.
Sébastien Dupont, duplex de Strasbourg.
Oui, je pense que c'est très juste ce que dit Serge Hefez, l'impact des normes sociales. Et d'ailleurs, ce qu'on observe dans les études, c'est que les immigrés ou les descendants d'immigrés intègrent très vite ces normes. C'est-à-dire qu'il est vrai que les immigrés de première génération ont beaucoup plus de familles nombreuses que les autres, mais dès la génération suivante, les enfants, enfin les futurs parents, intègrent ces normes et n'ont pas plus d'enfants que les autres. Sans doute parce qu'elles s'aperçoivent que si on veut rentrer dans la société française et élever les enfants à la française, en termes économiques, en termes d'attention, en termes de temps à leur consacrer, eh bien, il est difficile d'en faire plus de deux ou trois.
Serge Fez.
Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a quand même une exception française par rapport aux autres pays européens, c'est cette famille de trois enfants, alors qu'on qualifie de famille nombreuse, mais enfin, à trois enfants, je ne sais pas si on est vraiment une famille nombreuse. Moi, j'ai eu trois enfants, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une famille nombreuse. Mais où là, il y a quand même ce côté tribu, parce qu'il y a quand même une image beaucoup plus positive par rapport à cette famille très nombreuse, avec 7, 8, 10 enfants. C'est cette famille un petit peu tribu, qui serait un peu entre les deux. Alors, effectivement, trois enfants, quatre enfants, où là, on maîtrise encore un petit peu la fécondité et qui renvoie une image beaucoup plus sympathique, c'est-à-dire justement une image où on n'est pas dans l'égoïsme, pas dans l'entre-soi, mais on crée quand même une petite démocratie familiale.
Shadia Shaibi, Louis Lati.
Oui, alors moi je suis d'accord effectivement, je vais parler en mon nom propre, j'ai deux enfants, bon qui sont pas blonds, hein, j'ai pas réussi à faire des blonds, je suis bleu, je sais pas pourquoi, mais effectivement, il y a aussi le côté où j'ai vu ma mère pendant des années se sacrifier, parce qu'il faut pas oublier ça, c'est que quand on est maman d'une famille nombreuse, il y a un moment donné où on se sacrifie pour ses enfants. Et je n'ai pas voulu de cette vie de sacrifice, non pas pour correspondre au modèle français, mais plus parce que je voulais pas oublier le fait que je suis une femme avant tout, avant d'être une maman. Et ça, c'est important. C'est pour ça que j'ai pas reproduit ce modèle.
Et votre roman graphique Famille Nombreuse est un formidable hommage à votre mère.
Ah, je vous remercie. Ça me fait plaisir.
Sébastien Dupont.
Oui, là, ce que Shadia illustre très bien, c'est le renoncement à avoir plus de deux enfants qu'on retrouve dans beaucoup d'études chez des hommes et des femmes qui, en fait, souhaitaient avoir deux ou trois enfants et qui s'arrêtent à un ou deux pour préserver leur carrière, leur temps et pour pouvoir élever leurs enfants de la manière qu'ils souhaitent, c'est-à-dire en leur consacrant suffisamment de temps et aussi, il faut le dire, suffisamment d'argent.
Si vous avez vécu dans une famille nombreuse, si vous êtes à la tête d'une grande tribu, n'hésitez pas à témoigner 01 45 24 7000. Grand bien vous fasse à radiofrance.com. Allez, il est temps de retrouver les choses vues de notre camarade Christophe André.
Choses vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Bonjour cher Christophe André.
Bonjour cher Ali.
Que vous inspire notre sujet du jour ce matin ?
Eh bien, notre sujet me fait penser à la mansuétude, qui est un mot que j'aime beaucoup. Vous savez, les familles nombreuses, lorsqu'on en fait partie, ça nous apprend une vertu fondamentale pour la vie en société, c'est la mansuétude, ou l'indulgence, comme on veut. L'indulgence, c'est la bienveillance devant les erreurs et les fautes d'autrui et la tendance à leur pardonner. La mansuétude, c'est la même chose, mais appliquée aux personnes puissantes. L'indulgence des forts, en quelque sorte, qui pourraient punir, mais ne le font pas. Par rapport à notre sujet, la mansuétude, c'est pour les aînés, l'indulgence, c'est pour les cadets. Vivre en famille nombreuse, en effet, c'est se trouver exposé très tôt et pour longtemps à des grandes joies, dans les moments où on s'entend bien avec ses frères et sœurs, et puis à des grands énervements, quand ils se mettent à nous agacer exprès. Et comme on ne peut pas y échapper, et comme on ne peut pas quitter sa famille, du moins avant un certain âge, eh bien ces énervements vont soit nous rendre fous, soit nous apprendre, entre autres, la mansuétude. Je me souviens d'avoir lu un jour une petite bande dessinée du célèbre Charlie Brown, dans laquelle une grande sœur, Lucie, pleine de confiance en elle, apostrophait ainsi son petit frère, Linus, l'inhibé, qui suce son pouce et traîne partout avec lui sa vieille couverture. « Mon vieux !» N'oublie jamais ça. Je suis ta sœur aînée et c'est pour toute ta vie. La tête de son frère réalisant soudain un problème en disait long sur la joie que cette perspective lui procurait. À cet instant, il aurait sans doute rêvé être enfant unique, mais la vie est mal faite car pendant ce temps-là, ceux qui n'ont pas de sœur ni de frère rêvent d'en avoir.
Toi le frère que je n'ai jamais eu, sais-tu si tu avais vécu ce que nous aurions fait ensemble. Un an après moi, tu serais né. Alors on se serait plus quitté comme deux amis qui se ressemblent. On aurait appris l'argot par cœur. J'aurais été ton professeur à mon école buissonnière.
sûr qu'un jour on se serait battu, pour peu qu'alors on ait connu ensemble la même première.
Bon, on est jamais content de ce qu'on a, mais pour en revenir aux familles nombreuses, une de leurs grandes vertus, c'est donc d'apprendre à leurs membres tout un tas de compétences qui leur seront très utiles ensuite. L'affirmation de soi, la gestion des conflits, le pardon, la réconciliation. Les grandes fratries sont un véritable champ d'entraînement pour la vie sociale future. Et de toutes ces compétences sociales apprises par les familles nombreuses, vous l'avez compris, c'est l'indulgence et la mansuétude qui me semblent les plus importantes. Continuer d'aimer quelqu'un qui nous a souvent agacés et qui continuera sans doute de le faire de temps en temps. Être capable de voir les bons côtés d'un humain malgré tous ses défauts que l'on connaît par cœur. Ne pas rejeter, mais savoir recadrer. C'est pas si facile. C'est Rivarol qui disait « En général, l'indulgence pour ceux qu'on connaît est bien plus rare que la pitié pour ceux qu'on ne connaît pas. » C'est effectivement plus difficile d'être indulgent avec ses proches, frères, sœurs, puis conjoints, copains, collègues de travail, dont on sait que nous allons les côtoyer toute notre vie. Mais pourtant, quel gâchis si nous ne le sommes pas. Et vous, Ali, qui êtes un frère aîné brillant, puissant, êtes-vous suffisamment mansuétudineux et indulgent envers vos puinés et envers le genre humain ?
Il me semble, au fil des années.
Grâce à votre famille.
Exactement. Shadia Shaibi Louislati, sur la chronique de Christophe André, je pense que ça vous a parlé.
Oui, ça m'a. C'est une scène qui m'a apparu comme ça, où on avait des bagarres générales. C'était super. Enfin, c'était marrant parce que, enfin, il y avait des clans. Il y a toujours des clans, etc. Et effectivement, on compose avec les uns et les autres, on apprend, etc. Puis des fois, il y avait cette bagarre générale où on ne savait pas pourquoi on se battait, mais on était tous les uns sur les autres. Et il y a aussi ce côté, effectivement, d'avoir des. On a tout dans une famille nombreuse. On a des frères protecteurs. Donc, effectivement, je rejoins ce que vous dites. On apprend d'eux, on apprend de ses grandes sœurs, etc. Et c'est vrai qu'on compose avec les uns et les autres, quoi. Et ce qui est bien aussi dans une famille nombreuse, c'est qu'on a toujours, même si on ne s'entend pas forcément avec tout le monde, on a toujours quelqu'un avec qui s'entendre. Il y a toujours des petits clans, quoi. Mais c'est cette image de bagarre générale qui m'est venue en tête.
Serge Fèze, vous connaissiez les bagarres générales quand vous étiez enfant ?
Les bagarres générales. Mais justement, moi, qui n'ai qu'un seul frère, la chronique de Christophe, ça m'amène quand même à cette réflexion, c'est que les meurtres fratricides, qui sont quand même dans les mythologies de tous les peuples, quelque chose extrêmement important. Quand un frère tue son frère, Caïn et Abel, Romulus et Rémus, etc., eh bien, c'est toujours quand il y a une fratrie de deux. Et que lorsque les fratries sont plus nombreuses, eh bien, il n'y a plus ces meurtres fratricides, parce qu'il y en a justement toujours un qui est prêt à intervenir, toujours un qui est prêt à pacifier cette relation extrêmement mortifère entre deux autres. Sinon, on est un petit peu enfermé dans son rôle à l'intérieur de la famille, dans sa place, l'aîné, le deuxième, et puis... Il n'y a pas tous ces autres qui sont là, qui vont pouvoir vous aider à faire la paix et peut-être à changer un petit peu de place et de rôle aussi.
Sébastien Dupont, depuis Strasbourg.
Oui, je trouve que Christophe André a mis en avant quelque chose de très important dans les familles nombreuses, qui est cette chance qu'elle représente pour la socialisation de l'enfant. Tout à l'heure, Serge Fers parlait de démocratie familiale. Alors bon, pour faire une référence un peu culturelle, Aristote disait « Pour devenir un bon citoyen dans une démocratie, il faut apprendre à gouverner et à être gouverné. » Et c'est un petit peu ce que propose la famille nombreuse aux enfants, c'est-à-dire faire l'expérience d'être le grand frère, d'être le petit, d'être le moyen, de faire œuvre de mansuétude et d'indulgence, comme le disait Christophe André. Et donc ça permet de s'initier à plusieurs rôles sociaux sans faire nécessairement d'abus de pouvoir ou d'abus de faiblesse.
Les choses vues de Christophe André qui suscitent beaucoup de commentaires, c'est tous les mardis dans Grand Bien Vous Fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot et c'est réalisé par Claire Destacan. Question-réaction 01 45 24 7000.
Seras-tu capable de te revoir ? De te reconnaître, de te parler. Seras-tu capable de te prendre dans tes bras, de revenir chez toi sans claquer la porte?
Seras-tu capable de te donner des nouvelles, de relever le courrier, interroger ton répondeur?
Seras-tu capable de vider le cendrier, balancer le café foutu, faire entrer l'air de temps en temps?
Seras-tu capable?
Contacte-toi, même pas longtemps. Ne jette pas tes vêtements, ne pas le courant, répare la sonnette, fais quelques courses, invite-toi à dîner.
N'aie pas peur du réveil, de tes pas dans l'escalier. Ne t'oublie pas, ne te lâche pas, ne te fâche pas. Ne dis pas que tu ne veux plus entendre parler de toi, ne plus avoir affaire à toi.
Je parle à qui là?
Moi non plus. Désert des draps.
Avec cet animal, ça finit toujours comme ça.
Continuez sans moi. Ce talent pour la vie, je ne l'ai pas. Alors, continuez sans moi.
Frère animal sans moi.
France Inter. Grand bien vous fasse.
Alors, Augustin, 3 ans. Félix, 7 ans. Clémentine, 14 ans. Théophane, 8 ans. Paul, 18 ans. Édouard, 16 ans. Pierre-Éloi, 5 ans. Henri, 13 ans. Victor, 18 ans. Louis, 11 ans. Espérance, 18 mois.
Sur les 11 enfants, il y a 9 garçons, dont Louis, Félix et Pierre-Éloi, qui, eux, doivent cohabiter.
Ici, c'est mon lit. Là, c'est, dessous, c'est mon bureau. Ici, c'est le lit de Félix, avec son bureau intégré dedans. Et ben, là, c'est la chambre de Pierre-Éloi.
Et est-ce que c'est difficile à vivre d'avoir autant de frères et sœurs?
Bah non, justement, l'ambiance, elle est géniale. Et ben c'est plutôt chouette parce qu'on a toujours un frère à qui demander de l'aide si on a un problème. Et du coup, ça fait plaisir.
Un extrait de l'émission 7 à 8 sur TF1, diffusé en 2016. Comment bien vivre dans une famille nombreuse? C'est notre thème ce matin avec la dessinatrice Shadia Shaibi Loueslati, auteure d'une formidable BD Famille nombreuse, avec le psychiatre Serge Effez et avec le psychologue Sébastien Dupont en duplex de Strasbourg. Serge Effez, fondé aujourd'hui une famille nombreuse, c'est un projet de vie, un choix mûrement réfléchi. Il s'agit rarement d'accidents ou de fatalités, comme c'était par exemple le cas dans la France du début du XVIIIe siècle, qui comptait en moyenne 5 enfants par famille.
Oui, bien évidemment, c'est un choix. Aujourd'hui, on choisit d'avoir des enfants. Il y a moins de pression culturelle aussi sur le fait d'avoir une famille nombreuse, sauf dans des familles très, très religieuses. Donc, pour la plupart des familles, c'est effectivement décidé de fonder une tribu, c'est-à-dire c'est accorder de l'importance à certaines valeurs par rapport à d'autres. Parce qu'il faut bien se rendre compte que bien souvent avoir une famille nombreuse, c'est quand même un certain appauvrissement sur le plan matériel. Ça veut dire qu'on n'a pas les mêmes moyens à consacrer à tous ses enfants en termes d'études, en termes de soutien scolaire, en termes d'activités extrascolaires, etc. Et que donc, on s'accorde plus finalement aux richesses spirituelles. C'est-à-dire que l'important, ça va être que justement, comme le disait très joliment Christophe André, eh bien ces enfants, ils apprennent d'autres valeurs de l'existence, des valeurs d'entraide, des valeurs de solidarité, des valeurs plus démocratique, qu'il y ait des liens très différenciés qui se créent entre les enfants, qu'il y ait une atmosphère chaleureuse à la maison. Les familles très nombreuses, elles vivent un petit peu plus en autarcie, bien évidemment. C'est plus difficile d'avoir une vie sociale, c'est plus difficile de partir dans des lieux de vacances collectifs, etc. Donc, tout se fait un petit peu entre soi et donc on privilégie cette vision de la tribu familiale.
Shadia Shaibi Loueslati, fonder une famille nombreuse, c'était un projet de vie pour pour vos parents ou c'était de façon plus prosaïque lié à l'absence de contraception?
Oh, j'aime à croire qu'ils s'aimaient follement et qu'ils avaient envie, voilà, de...
Non, mais il y a de l'affection entre eux dans le bras.
Il y a énormément d'affection. Connaissant ma mère, ça m'étonnerait qu'on puisse comme ça lui imposer, enfin lui interdire la prise de la pilule, etc. Je pense que c'est vraiment un choix pour mes parents. C'était vraiment un choix d'avoir autant d'enfants.
Sébastien Dupont.
Oui, alors sur la question du choix, comme l'a dit Serge Hefez, aujourd'hui c'est un choix volontaire. Alors autrefois, il n'y a pas si longtemps, ça n'était pas un choix. Hein. Dans toutes les sociétés, les sociétés traditionnelles promeuvent un nombre élevé d'enfants, ne serait-ce que pour une raison concrète, qui est qu'il n'y a pas si longtemps, le taux de mortalité infantile était très élevé. Hein. Au XVIIIe siècle, un enfant sur trois décède avant un an. En 1900, c'était encore un sur six. Ce qui fait qu'il y a deux siècles, pour donner vie à deux enfants qui deviendront eux-mêmes adultes et auront eux-mêmes des enfants, il fallait en fait en avoir eu cinq ou six petits. Alors c'est une réalité assez cruelle. Aujourd'hui, c'est évidemment plus du tout le cas. Et aujourd'hui, c'est d'autant plus un choix que ça n'est pas n'importe qui a des familles nombreuses. Et statistiquement, les parents qui ont trois enfants ou plus sont eux-mêmes des enfants qui ont été des enfants qui ont vécu en famille nombreuse. Plus on a de frères et sœurs, plus on a des enfants.
Bonjour Marie-Jo.
Bonjour.
Vous appelez de Paris, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Alors, vous êtes la 13e d'une famille de 14 enfants, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je suis la 10e fille, il y avait 4 garçons.
Qu'est-ce qui domine? C'est la joie d'avoir vécu dans ce type de famille?
Tout à fait. La joie, l'animation, le plaisir d'être tous ensemble, de chanter, de participer. Beaucoup de mouvements, beaucoup de joie, hein, beaucoup de joie, ouais. Mais en même temps, la difficulté quand même de trouver sa place.
C'est-à-dire?
De trouver sa place, d'exister. Parce que les grands prennent beaucoup de place, donc les grands, on les admire. Quand on est l'avant-dernière, comme moi, bah, les grands, on les admire et on est... qu'est-ce qu'on est, quoi? Comment est-ce qu'on peut exister? Et c'est ça qui a été le plus difficile à vivre.
Serge Hefez.
Oui, c'est très très important ce témoignage de Marie-Jo, parce que c'est ce que j'entends beaucoup de mes patients qui ont été dans des familles nombreuses, ou ce que je constate aussi en recevant des familles qui ont 5, 6, 7, 8 enfants. Heureusement qu'on a une grande pièce d'un grand bureau à la salle Pétrière pour les recevoir. C'est qu'il y a ces deux aspects. Il y a cet aspect à la fois d'un très grand bonheur, il y a des familles qui sont des orchestres, il y a des familles qui chantent ensemble, puis il y a toujours cette animation, parfois ces frictions, ces rivalités, ces bagarres, mais tout ça est extrêmement heureux, et puis aussi cette angoisse de ne pas avoir une relation très privilégiée avec son père, avec sa mère, que leur affection se dilue par rapport à tous les enfants, mais dans une vision très idéalisée au fond, parce que quand on a cette relation très privilégiée avec un de ses parents, c'est aussi une difficulté, c'est aussi un poids, c'est aussi une intrusion, c'est aussi quelque chose dont il n'est pas si facile de se défaire.
Shadia Shaibi Loueslati, ça vous parle le témoignage de Marie-Jo?
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que avoir autant de frères et sœurs, ça vous donne autant de camarades de jeu, en fait, et de choses à partager avec eux. Donc, c'est vraiment bien. Mais effectivement, il y a un côté où, enfin, moi, je l'ai pas senti au niveau de mes parents. C'était pas l'amour de mes parents que je recherchais. C'était qui me gênait. C'était plus quand j'arrivais à l'école et que mes frères aînés qui étaient vraiment des matheux, hein, il faut dire ce qu'ils étaient, vraiment des matheux. Moi, j'arrivais derrière, et puis moi, les maths, je le dis très bien dans le livre, je suis allergique aux maths. Et je me prenais ça en pleine figure, on me disait « Ah, mais c'est bizarre, vous n'êtes pas comme vos frères qui sont très bons en maths. » Voilà, on est systématiquement comparé à quelqu'un. C'est ce côté-là où c'est vraiment...
Comment est-ce que vous avez trouvé votre place dans cette fratrie de 12 enfants?
J'ai fait ce que les autres ne faisaient pas. C'est-à-dire que je me suis jetée à corps perdu dans la lecture et l'écriture. Et puis mon père, il trouvait ça super sympa, parce que lui, il n'écrivait pas forcément le français, ni le lisait. Donc je me souviens que mes parents ont économisé pour acheter une machine à écrire dans mon ancien collège. Ils se sont arrangés avec le professeur de français en disant « Voilà, vous avez des machines à écrire, on peut en récupérer une, on la répare, et puis notre fille va devenir écrivain. » Mon père, c'est ce qu'il se disait, quoi. Donc j'avais le droit, parce qu'on n'avait pas de bureau, parce que j'entendais tout à l'heure le reportage de l'enfant qui disait « Voilà, ça c'est mon lit, puis ça c'est mon bureau. » Nous, on n'avait pas de bureau, parce que sinon il y avait pas de place.
Il y avait une grande tablée pour faire les devoirs.
Voilà, il n'y avait pas de place pour les lits dans les chambres si on mettait des bureaux. Donc on était assis à table, et puis il y avait une grande tablée, on faisait nos devoirs dans le salon. Et moi, j'avais le droit d'aller écrire dans la chambre avec ma machine à écrire, puis il fallait pas me déranger. Alors pour moi, c'était super. J'avais trouvé le moyen d'avoir ce petit moment rien qu'à moi.
C'est votre côté Françoise Sagan. Hein.
C'est ça.
Merci beaucoup Marie-Jo de nous avoir appelé. Bonjour Christine.
Bonjour.
Vous nous appelez de la Marne.
Tout à fait.
Alors, vous avez 6 enfants, c'est ça?
Tout à fait, 6 enfants, grâce à une famille recomposée, puisque moi j'ai eu 3 garçons. Mon mari est arrivé avec une fille et un garçon. Et puis, nous avons décidé d'adopter une 6e enfant, donc une fille. Donc, nous avons 4 garçons et 2 filles. Donc, ben, grande famille avec ben, tous ces aléas, les bons côtés, les moins bons côtés. Mais bon, en tout cas, un choix que je ne regrette pas et que je réitérerai avec beaucoup de plaisir. Et je pense que de toute façon, c'est bien parti puisque nos enfants eux-mêmes, maintenant, se disent qu'ils ne pourraient pas vivre dans une petite famille. Donc, ils envisagent tous de nous refaire des bébés. Donc, on sera des grands-parents avec énormément de petits-enfants, j'espère.
Christine, quels sont les enjeux spécifiques des familles nombreuses recomposées?
Je pense que déjà, le premier enjeu, ça a été de faire en sorte que tout le monde trouve sa place parce qu'ils n'arrivaient pas obligatoirement du même horizon. Et bah, il fallait que les uns et les autres s'adoptent, trouvent même un vocable commun pour nous appeler. Enfin, c'était un peu, voilà, c'était, au départ, c'était un peu tatillon. Mon fils aîné, moi, a pris très au sérieux, parce que c'était vraiment le plus grand, son rôle de grand frère. Et je pense qu'il a beaucoup aidé, justement, à cette cohésion.
Serge Effèze.
Oui, c'est paraît très important d'introduire cette question des familles recomposées, parce que c'est beaucoup ça les familles nombreuses aujourd'hui, c'est-à-dire c'est au fond des parents qui n'avaient pas tellement le projet d'avoir une famille nombreuse au départ, qui ont fait chacun deux enfants, parfois 3, et puis comme il y a beaucoup de séparations aujourd'hui, on le sait, ça n'est pas un scoop, et donc beaucoup de recompositions, et bien tout à coup, ils se retrouvent père et mère d'une famille de 5 ou 6 enfants, alors qu'ils n'y étaient pas préparés, et des enfants qui en plus doivent bricoler leur relation, c'est comme une greffe, hein, ça prend ou ça prend pas, avec le fait que ce sont les enfants qui vont fonder la famille. C'est-à-dire que si 2 enfants d'un côté et 2 enfants de l'autre, ils n'arrivent pas à s'accorder et surtout à accepter ce nouveau beau-père ou cette nouvelle belle-mère, la famille ne tiendra pas et le couple ne tiendra pas. Donc c'est des enjeux extrêmement lourds qui pèsent sur les enfants. Souvent ces couples-là, comme il me semble avoir entendu chez Christine, soit ils font un enfant, soit ils adoptent éventuellement un autre enfant qui va être un peu le lien, qui va être le trait d'union entre les deux fratries, qui va permettre à chacun de ses frères et sœurs d'avoir en commun un frère ou une sœur. Donc il y a dans ces liens de fratrie quelque chose qui devient fondateur de la famille. C'est un peu comme si la famille poussait à l'envers d'une certaine façon.
Sébastien Dupont, duplex de Strasbourg.
Oui, effectivement, les familles nombreuses recomposées sont très importantes. En fait, elles constituent le principal groupe des familles nombreuses. Et évidemment, c'est à la fois une chance pour les enfants et c'est souvent assez complexe, notamment lorsque plusieurs enfants vivent dans plusieurs ménages, s'ils sont en résidence alternée, en résidence partielle, etc. Si bien que cela donne une famille à géométrie variable, semaine père, semaine impair, week-end père, week-end impair, etc. C'est parfois un petit peu difficile pour la famille et notamment pour la fratrie de recréer une unité, ne serait-ce que du point de vue logistique, mais aussi du point de vue, on pourrait dire, de la culture familiale. Alors parfois c'est aussi une chance parce que les enfants ont l'impression que pendant la semaine père, ils sont dans cette grande famille nombreuse, etc. Ils vivent tout ça. Et ensuite, un week-end sur deux ou pendant la semaine impair, ils ont un rapport plus privilégié à leurs parents, comme on en parlait tout à l'heure. Donc c'est à la fois une chance et aussi un grand problème de logistique et de régulation des enfants entre eux.
Christine, j'ai une question pour vous par courriel. Oui. Pour vous, pas pour vous spécifiquement, mais j'aimerais vous l'adresser. Les parents ne sont-ils pas égoïstes lorsqu'ils ont beaucoup d'enfants en ne pensant pas à leur avenir et en comptant trop sur la société? C'est un courriel qui vient de nous être adressé. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors bon, nous, dans notre cas, en tout cas, ça pose pas un souci puisque de toute manière, on avait de quoi éduquer moi, mes 3 enfants, mon mari, les 2 siens et ainsi de suite. Donc, ça n'a pas été un vrai problème et ça n'a pas été une question d'égoïsme. Nous, de toute manière, les allocations familiales, ça a toujours été tellement compliqué entre les autres conjoints, etc., qu'à un moment, on a jeté le gant et on s'est dit, bon, ben, on continue comme ça. Donc, parce que c'est vrai que j'entendais ce que disait votre intervenant, c'est qu'à un moment, on n'est pas que deux, On est aussi, il y a les autres parents de l'autre côté, il a fallu réussir à faire en sorte que tous les enfants soient bien la même semaine avec nous, parce qu'on y tenait énormément. Or, les jugements sont un peu à l'emporte-pièce, père chez la mère, un père chez le père, et ainsi de suite. Donc, à un moment, il faut tergiverser avec des conjoints, des ex-conjoints, qui ne sont pas toujours coopérants. Mais je pense qu'il faut absolument que tous les enfants arrivent à vivre ensemble à un moment, autrement, on vit jamais une vie de famille.
Merci beaucoup, Christine, de nous avoir appelé de la Marne. Sur la question de l'éventuel égoïsme des parents, Shadia Chaibi Louislati.
Moi, je dirais non dans notre cas, puisque ma mère s'est vraiment occupée de nous jusqu'au bout, même dans les études. Moi, je la revois encore m'accompagner à la fac en voiture pour être sûre que j'arrive à l'heure. Enfin, donc non.
Mais on a l'impression que votre mère, elle a le don d'ubiquité. On a l'impression qu'il y en a 10, quoi, pour.
Oui, elle arrive
entre les tâches ménagères, c'est ça, l'éducation.
Elle arrive à tout gérer, enfin, d'une main de maître. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Donc, moi, je répondrai non à cette question.
Serge Fez.
Non, encore une fois, parce que tout dépend de ce qu'on pense important de transmettre à ses enfants comme valeur. Alors, effectivement, sur le plan, encore une fois, financier, cet auditeur a raison, au sens où, par exemple, si on prend les statistiques, dans une famille peu nombreuse de deux enfants, il y a 25% de probabilité d'arriver à un stade de cadre, tandis que dans une famille nombreuse, il y a 14% de probabilité. Donc effectivement, sur le plan de ce qui va pouvoir être transmis en termes matériels, en termes d'éducation, il y en a un peu moins. Mais par contre, dans ce qui est transmis en termes, encore une fois, de lien à l'autre, de solidarité, de savoir se débrouiller, de s'aider les uns les autres, dans une famille nombreuse, les grands prennent en charge les petits, etc. Toutes ces qualités-là, qui sont des qualités humaines, eh bien je pense qu'on les trouvera plus dans une famille nombreuse que dans une petite famille.
Sébastien Dupont.
Il faut surtout dire que les parents qui font beaucoup d'enfants apportent quelque chose à la société et que au contraire on devrait les remercier, puisque sans ces familles nombreuses on serait en dessous du taux de renouvellement des populations et on pourrait se poser la question de qui paiera nos retraites.
Allez, questions, réactions, témoignages au 01 45 24 7000 et par courriel grand bien vous fasse à radiofrance.com.
We are one.
Lenny Kravitz qui fait danser notre réalisatrice Claire Destacan.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h47, comment bien vivre dans une famille nombreuse, c'est notre thème ce matin, en compagnie de la dessinatrice Shadia Shaibi-Loueslati, du psychiatre Serge Eiffez et avec le psychologue Sébastien Dupont en duplex de Strasbourg. Alors Shadia Shaibi-Loueslati, dans votre roman graphique Famille nombreuse, qui m'a beaucoup fait penser à Marjane Satrapi, en tout cas dans le trait, vous racontez donc la vie quotidienne dans cette famille qui comptait 12 frères et sœurs. Alors prenons l'année scolaire 1980. Alors, dès 16h30, à la sortie de l'école, organisation très stricte, 5 minutes pour rentrer tous ensemble et pas une minute de plus, surtout que votre mère vous surveillait depuis la fenêtre.
Oui, elle avait même acheté une paire de jumelles.
C'est pas vrai.
Si, pour pouvoir nous surveiller dans la cour et voir si on mettait bien nos cagoules ou pas. Et puis si on lui mentait, elle nous disait « Ah non, je t'ai vu à telle heure, t'avais pas de cagoule, etc. » Donc elle était hyper mère poule. Et c'est vrai qu'on avait 5 minutes pour rentrer. Une fois rentrés à la maison, c'était on s'alignait tous, on faisait les devoirs. Et il fallait qu'on...
Dans la grande table, hein,
sur
du
la
salon.
Grande table du salon, parce que sinon il n'y aurait pas eu assez de place dans les chambres pour mettre des lits, si on avait eu des bureaux. Et ma mère demandait à chacun de déposer son carnet de correspondance et son cahier de texte, et elle vérifiait non pas les devoirs qu'on avait à faire, mais que, surtout pour les aînés, les carnets de correspondance, elle vérifiait le numéro des pages, hein, savoir s'il n'y avait pas une page qui avait été arrachée, ou s'il y avait des mots, etc. Elle était très très présente au niveau de l'école, au niveau des devoirs, et ce qui était bien, c'est qu'on avait toujours les aînés qui aidaient les petits, les plus jeunes, etc. On faisait des chaînes comme ça.
Alors le mercredi, c'était le jour préféré,
ouais,
souvent dans la télé, hein, pendant que votre mère cousait à la machine, parce que votre mère habillait toute la famille.
Oui.
Et les vêtements se transmettaient au sein de la fratrie.
Bah oui, en fait, quand on a une famille nombreuse, bah, moi je le vois aujourd'hui, j'ai pas de famille nombreuse, mais je le fais avec mes filles, je récupère les fringues de la grande pour que la petite les mette. Bon, bah, mais bon, par contre, quand elle me dit « Oh, j'aime pas », etc., j'insiste pas. Sauf que nous, on n'avait pas le choix, aimer ou pas aimer, il fallait mettre. Et puis ma mère, à Fistolaire, faisait les ourlets, elle agrandissait un vêtement. Ou
et oui, il y avait une durée illimitée de vos vêtements. On peut pas dire que vous étiez habillée à la mode, d'où l'avantage
peut-être... Non, on était écolo.
Oui, vous étiez écolo, voilà. Vous recycliez. Mais d'où l'avantage d'être l'aîné pour votre frère Z.
C'était le plus heureux parce qu'en fait, il avait tous les vêtements en premier, quoi. Donc c'était lui qui les usait d'abord et puis on récupérait ses restes, ce qu'il nous disait souvent d'ailleurs, bon bah je te le donne parce que j'en veux plus, etc. Donc c'était assez marrant. Il avait vraiment la place de choix, on va dire.
Bon, tu sens, putain, ça fait 2 heures là. Ouais, t'avais qu'à pas squatter dedans hier soir. C'est bon, sors,
Mais qu'est-ce qui se passe? Ça va
mais
pas.
Mais cette psycho là, elle a mis son réveil un quart d'heure avant pour me griller dans la salle de bain.
C'est quoi ce bordel là? Vous avez vu le
Ouais, les gars, il est même pas 6h, putain.
Vous êtes tous chier là.
Mais dis donc, mais oh, c'est quoi ce langage?
Non, mais c'est bon, attends, lui il dit putain et tu lui dis rien, sans déconner. C'est quoi cette famille là? Allez, sors toi, c'est bon.
Va chier.
Qu'est-ce qui se passe là?
Putain, mais ça part en steak dans cette famille.
Wow.
Léo,
mais t'as fait règle ou quoi là?
Vous êtes fatigué aujourd'hui?
Un extrait du film « C'est quoi cette famille ?» de Gabriel Julien Laferrière en 2016. Shadia Shaibi-Loueslati, il y a un jour que vous détestiez tous dans la famille,
c'est le dimanche,
le jour de la douche.
Parce qu'il fallait se laver. J'ai même à mes frères qui m'ont dit « Non mais tu vas pas mettre ça dans le lit. Enfin, » Tout le monde va savoir qu'on se lavait que le dimanche. Je lui ai dit « Mais attends, avec
dans
autant d'enfants... » Enfin, ouais, avec autant d'enfants, on pouvait pas faire une douche tous les jours. C'est-à-dire, c'est pas possible. Ma mère, elle aurait passé son temps à gérer le linge. Ouais. Et c'est vrai que ma mère essayait de faire attention, parce que comme on était nombreux, on pouvait pas se permettre justement de laisser couler comme ça l'eau indéfiniment de la douche. Donc, elle remplissait une grande bassine et il fallait gérer avec cette bassine. Si on utilisait toute la totalité de l'eau et qu'on n'en avait plus, qu'on était encore avec les cheveux pleins de shampoing, eh ben tant pis. Donc on a vite appris à gérer et à bien... Et j'ai même gardé cette... Enfin, je ne remplis pas de bassine pour mes filles, mais je fais très attention à l'eau, etc. Je suis très
écolo, hein, voilà. Shadia Shaibi-Loueslati. Serge Eiffez, préserver son intimité dans une famille nombreuse, c'est une gageure, hein, surtout dans un appartement de taille modeste.
Ah bah
la promiscuité, c'est la grande ennemie de la famille nombreuse.
Bah, c'est à la fois un ennemi, puis c'est à la fois un côté chaleureux, justement. C'est-à-dire, ça évite trop d'égoïsme, trop de quant à soi, trop d'une petite vie personnelle, comme ça, entre ces quatre murs. Ça veut dire qu'on apprend aussi cette expérience du partage et que l'intimité, c'est aussi du lien avec l'autre. Il y a pour tous ces aspects de la famille nombreuse, il y a toujours un aspect positif et un aspect négatif qui sont les deux revers de la même médaille. Mais je trouve qu'à écouter Shadia, et d'ailleurs votre auditrice était d'accord tout à l'heure, on a plutôt envie d'être dans sa famille que dans une famille d'un seul enfant.
Oui, on a un courriel d'une auditrice qui nous dit qu'elle aimerait beaucoup, elle aurait aimé vivre dans votre famille.
Alors Shadia, demandez-lui si elle aime la mouria, puis après nous, ça ne nous pose pas de problème.
Parlons de ce plat tunisien.
Oui.
Un jour, vous décidez d'inviter votre meilleure amie Émilie quand vous étiez en classe de CE1. Oui, alors c'est toute une histoire, hein, cette invitation.
Oui, parce qu'on n'avait jamais posé la question à ma mère d'inviter qui que ce soit, parce qu'on était déjà suffisamment nombreux pour inviter des copains et des copines. Sauf que moi, bon, bah, j'étais très attachée à cette fille qui avait été très gentille avec moi, une des premières, qui était passée outre le fait que j'avais une coupe absolument immonde.
Et vous redoutiez qu'elle goûte un plat peu ragoûtant préparé par votre mère. Ça s'appelle
la mlochia. C'est un plat tunisien.
Mais alors, pas du tout, c'est un plat égyptien. Là, moi, qui suis d'Égypte, je peux vous dire que c'est un plat égyptien.
Bon, effectivement, bon, alors, peut-être, mais je sais qu'on le fait en Tunisie, et on le cuisine en Tunisie. J'ai appris ensuite, effectivement, qu'il était cuisiné de différentes manières un peu partout dans le monde. Et il est cuisiné en général le jour de l'an. Donc c'est vraiment un plat qu'on ne fait pas tout le temps. Et quand on le fait, c'est vraiment parce que.
Sauf que vous, Shadia Chaibi-Louislati, vous le comparez, ce plat, la mourlia, à un pélican empêtré dans une marée noire avec une masse jaune qui s'accumulait sur le rebord de l'assiette. Et Émilie, votre amie, a dû manger ce plat.
Bah oui, parce qu'en fait, voilà, elle est super gentille. Puis ma mère lui présente le plat, puis elle se demande ce que c'est. Déjà, c'est une odeur assez forte, enfin assez peu commune, on va dire.
Il y a quoi dedans ?
En fait, c'est de la poudre de corette écrasée. Enfin, c'est de la poudre de corette tout simplement. Et puis c'est un plat qui cuit pendant des heures et des heures jusqu'à vraiment s'épaissir et devenir un ragoût. Et c'est ce que ma mère avait cuisiné. Et du coup, moi, j'étais terrorisée. Je me disais, mais déjà, moi, je n'aimais pas ce plat. Et je me dis, mais c'est pas possible. Émilie, elle peut pas aimer, quoi. Et puis, le pire, enfin, dans tout ça, c'est que ma mère en a donné à sa mère en lui disant, mais tenez, c'est pour vous, ça me fait plaisir. Ouais. Je me suis dit, non, c'est pas possible, quoi. Et Émilie a été adorable sur ce coup-là. D'ailleurs, je la remercie si elle m'écoute, mais elle n'en a jamais parlé à l'école.
Alors, Shadia Chaibi-Louislati, qui dit famille nombreuse, dit organisation militaire au niveau de la vie quotidienne, au niveau du linge, du ménage, de la cuisine. Quelle était la répartition des rôles domestiques
Les filles faisaient tout, les garçons, faisait rien.
Bon, ça a pas trop
les garçons, hein. Si, écoute, non, les garçons faisaient les courses. Et nous, les filles, on avait toutes les tâches ingrates. Enfin, comment la répartition, c'est très simple. C'était les aînés souvent qui faisaient tout, qui s'occupaient des petits pour aider ma mère, parce que ma mère toute seule. Il est clair que dans une famille nombreuse et qu'on me dise pas le contraire, il y a souvent les aînés qui aident les plus jeunes. Qui voilà, il y a cette chaîne qui se crée.
Et puis votre mère était une vraie pro pour optimiser votre espace de vie.
Ah, elle savait vraiment.
Il y a un
bien
dessin
gérer.
Formidable où ça ressemble à Tetris d'ailleurs, l'organisation des pièces.
C'est ça, parce qu'en fait il y avait que 3 chambres pour les enfants, 3 chambres pour 11 enfants. Donc il fallait absolument bien gérer les choses, et là-dessus ma mère était vraiment une pro, quoi.
Serge Eiffez, il est quand même important, quand on vit dans une famille nombreuse, de faire comme si chaque enfant était un enfant unique, c'est-à-dire de lui consacrer du temps comme si il était tout seul.
Bah, dans la mesure du possible, évidemment, dans la mesure des moyens et dans la mesure du temps, mais évidemment parce que chaque enfant est différent, chaque enfant n'est pas une partie, simplement une partie du groupe, il a aussi sa spécificité, son originalité, et que chaque enfant a besoin d'être reconnu dans ses capacités, dans ses compétences, dans son originalité. Donc bien évidemment, si les parents ont la possibilité de se consacrer un peu à chaque enfant, d'avoir une relation spécifique avec lui, de lui proposer aussi une activité spécifique, c'est mieux, mais c'est pas toujours possible.
Shadia Chaibi, Louislati, il y avait un chouchou quand même ?
Oui, Sam. C'est vrai que c'était le petit chouchou de ma mère. Et puis on passait souvent. Alors, j'ai un peu extrapolé dans le livre, dans le sens où je l'ai dessiné toujours en train de manger. C'était un peu une image. Mais c'est vrai qu'il nous a quand même pas mal aidé, parce qu'on profitait de son statut de chouchou pour demander justement à nos parents certaines choses. On passait par lui et ça marchait toujours.
Merci beaucoup d'être venu. Merci Serge Eiffez. La Fabrique de la Famille est publiée chez Kero. Merci Sébastien Dupont Duplex de Strasbourg. Et merci Shadia Chaibi-Louislati. Je recommande très vivement Famille Nombreuse, publié chez Marabule. Et tout de suite, on retrouve l'intervention de Marie-Laure Zonshine, Femme Actuelle. Rebonjour Marie-Laure Zonshine.
Rebonjour Ali.
Alors cette semaine dans Femme Actuelle, vous vous posez la question du congé menstruel. Qu'est-ce que c'est ?
Alors effectivement, le congé menstruel, c'est une mesure qui, il faut le savoir, a été instaurée par plusieurs pays. Le Japon, il y a déjà 70 ans, figurez-vous. La Zambie, la Corée du Sud, l'Indonésie et donc plus près de nous, l'Italie qui est en train de finaliser le texte. En fait, il s'agit d'octroyer 3 jours par mois sur prescription médicale uniquement, sur présentation d'un certificat médical. 3 jours par mois d'absence naissance à des femmes qui ne peuvent pas venir travailler parce qu'elles souffrent beaucoup trop de règles douloureuses. Alors, la question qui se pose en France, parce que bien sûr, ça fait débat aujourd'hui, on s'interroge sur la pertinence de cette mesure, c'est de dire, pour celles et ceux, parce que les hommes aussi, bien évidemment, participent à ce débat, c'est de ceux qui sont pour, c'est de dire bah, c'est une manière de mettre fin à ce tabou des règles, dans le monde du travail notamment. C'est de pouvoir dire, eh bien oui, arrêtons de culpabiliser parce que toutes les femmes, tous les mois, certaines d'entre elles en tout cas, souffrent beaucoup et pourtant n'osent pas le dire, culpabilisent, vont travailler quand même, plier en deux bien souvent, et ça cache pour certaines, et on le sait, une maladie, l'endométriose, qui touche quand même 850 000 femmes.
Alors quels sont les arguments pour ou contre le congé menstruel ?
Alors les arguments pour, donc je viens de l'évoquer, c'est cette manière finalement d'arrêter de culpabiliser, de briser ce tabou dans le monde du travail encore une fois, de normaliser cet état, de sortir aussi du registre de la honte. Hein, toute femme le sait bien quand elle a vécu en entreprise, voilà, comme on dit, les Anglais débarquent hein, en pleine réunion. Bon, c'est des choses, je ne sais pas si vous le racontez, Chalia, dans votre livre, mais enfin, c'est des situations qui peuvent arriver. Alors, en revanche, ceux qui sont plutôt contre, et vous me permettrez, Ali, d'en faire un peu partie, je trouve que ça nuit à l'égalité homme-femme. On stigmatise encore une fois les femmes. Alors, au travail, il faut se méfier d'une femme parce qu'elle va avoir des enfants, parce qu'elle va tomber enceinte, et alors maintenant, parce qu'elle va avoir ses règles. Donc, finalement, on dit au monde du travail, bah écoutez, Madame Dupont n'est pas là aujourd'hui, c'est QFD, elle a ses règles, donc elle peut pas travailler comme un homme, donc il ne faut pas la payer comme un homme, il ne faut pas l'embaucher comme un homme. Voilà, le débat est ouvert.
Un mot, Shadia Shaibi Louislati, sur cette question.
Alors, moi je suis un peu partagée, parce qu'effectivement, on peut vivre les règles de manière très douloureuse, c'est vrai que ça peut être pour certaines femmes vraiment très difficile à vivre, mais je vous rejoins dans le fait qu'effectivement, ça peut paraître pas égalitaire, enfin pas égal vis-à-vis des hommes, etc. Donc, ouais, je suis un peu partagée. Je vais réfléchir à cette question.
Merci beaucoup Marie-Laure Zunshein, de Femmes Actuelles. Demain, on s'intéresse aux nouveaux pères. N'hésitez pas à nous appeler pour nous raconter la paternité version année 2010, par courriel grandbienvousfasse@radiofrance.com. À la technique ce matin, Hélène Longlois et Ludovic Asselot. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.